Vous écoutez D'ici et d'ailleurs, Histoire de musiciens de Touraine, émission radiophonique collaborative créée par les étudiants du parcours musicologie à l'Université François Rabelais de Tours. Dirigée par Talia Bachir-Loupuit et Emeline Lechaud et avec l'assistance de Gilles Horry, ce projet a pour objectif de vous faire découvrir des portraits de musiciens d'Indre-et-Loire représentant un ailleurs. Vous êtes bien sur la fréquence 99.5, Radio Campus Tours.
Chers auditeurs, auditrices, bonjour. Pour ce quatrième volet de notre série sur le projet D'ici et d'ailleurs, nous porterons notre regard sur le thème central de l'ethnomusicologie, le lien entre la voix et les expressions de la spiritualité. Instrument naturel de l'homme, la voix est un organe essentiel employé dans bien des manifestations religieuses. Chanter ou parler, elle participe à des temps forts de la vie collective. Elle est à la fois un vecteur de transmission de textes sacrés, de langues, de croyances religieuses, mais aussi de création artistique. Nous entendrons dans cette émission les voix de Tari Akbari, Sundar Gopal, Daniel Saulnier et Gulay Adjer Toruk. À travers leur trajectoire de ces quatre musiciens, nous verrons que le chant occupe une place primordiale dans des rituels, mais aussi et plus largement dans une quête de spiritualité qui peut emprunter divers chemins. Vous venez d'entendre une polyphonie traditionnelle de Sardaigne pratiquée pour les fêtes et les repas. Un extrait collecté par Bernard Lorte à Jacob et tiré de l'anthologie Voix du Monde. Mais avant, pourquoi évoquer ce thème de la voix et de la spiritualité dans cette émission ? Que veut dire spiritualité dans le monde qui est le nôtre ? Nous allons vous l'expliquer. Cette notion de spiritualité a un sens fluctuant. Elle renvoie d'un côté à la notion d'esprit et au partage qui s'est établi dans notre civilisation entre le corps et l'esprit, le matériel et l'immatériel. La spiritualité peut être associée à la sphère religieuse et à la pratique de certains rites régis par des dogmes ou des traditions. Par exemple, la messe catholique, les psalmodies bouddhiques, les chants d'initiation ou les lamentations funèbres que les ethnomusicologues ont enregistrés en divers endroits du monde. Vous venez d'écouter un extrait d'une lamentation funèbre des îles Salomon à Malaita. Cet extrait a été collecté par Hugo Zemp, Bernard Lorta Jacob et Gilles Leoto. Cet extrait est également tiré de l'anthologie Voix du Monde. Mais la notion de spiritualité renvoie aujourd'hui aussi à un domaine plus large, un croisement entre religion, philosophie, psychologie et dont témoignent aujourd'hui les rayons spiritualité de nos librairies. Elle peut aussi être employée dans des contextes bien distincts de la sphère religieuse, comme le domaine de l'art et tout particulièrement de la musique. On considérera ainsi bien souvent que la spiritualité peut émaner d'une expérience esthétique et d'une pratique de l'écoute, ce que les soufis appellent le sema, l'audition mystique qui rappelle les concerts spirituels dans le monde occidental. La voix est d'ailleurs, pour cette même raison, considérée comme un outil thérapeutique et un vecteur important dans des pratiques contemporaines visant le bien-être, telles que le yoga de la voix. Selon la psychologue Patricia Attigui et le psychanalyste Christophe Ferver,
la voix est le plus vieil instrument jamais pratiqué par l'homme, instrument qui nous plonge fondamentalement au cœur de l'originaire et des modalités archaïques de l'identité.
Nous écouterons aujourd'hui les portraits de quatre figures interrogées par des étudiants de musicologie de Tours. Écoutons d'abord Sundar Gopal, de son vrai nom Port-Sylvain qui a grandi à Tours. Après une adolescence marquée par la pratique de la batterie, il découvre la musique indienne et, à travers elle, toute une vision du monde. Ses nombreux voyages en Inde lui permettent de se familiariser avec la philosophie et le mode de vie hindouiste, la science ayurvédique et la pratique du kirtan, un chant dévotionnel consistant à répéter des mantras. C'est un portrait réalisé par Bernard Pauline, Luis Do Espirito Santo et Léna Chopin.
J'ai vraiment commencé à m'impliquer plus dans une démarche philosophique, spirituelle. Les grandes questions, qui on est, pourquoi on est là, est-ce qu'il y a une origine au monde, est-ce qu'il y a une vie après la mort, enfin toutes ces questions-là. Et puis c'était toujours en fréquentant ces personnes qui pratiquent donc le Bhakti Yoga, le Bhakti veut dire dévotion, c'est un yoga du cœur, c'est pas un yoga des postures, et donc c'est basé, qui est beaucoup basé justement sur la musique, sur le chant. Tout a commencé. Alors, je suis né en juillet 1965 à Paris, 13e. Ensuite, mes parents se sont séparés et on est venu habiter à Tours, en fait. Au niveau de la musique, j'écoutais les groupes de l'époque, hein, les Rolling Stones, les Pink Floyd, les Who, etc. Puis d'autres. Et puis, j'aimais bien le jazz rock, les musiques un peu mystiques aussi. Et j'aimais bien la batterie, alors je prenais des cours de batterie ici à Tours avec un prof particulier, j'ai oublié son nom maintenant. Et je jouais avec des copains, quoi. J'étais en seconde à l'époque au lycée Descartes à Tours, et puis on jouait à la maison, ma mère devait tolérer la batterie. J'ai arrêté l'école à 16 ans, ça ne m'intéressait plus, et je me suis dit je vais être batteur, alors... Elle tolérait 4 heures de batterie tous les jours à la maison.
4 heures.
Ouais, 3-4 heures de batterie. Donc, et puis plus les copains qui venaient avec les amplis parfois, etc. Donc voilà, elle a toléré tout ça. Et alors avec la musique indienne, en fait, à proprement dit, quand j'allais en centre-ville, là, je voyais parfois des gens qui chantaient les mantras. C'était exactement place Jean Jaurès à l'époque, c'était très coloré et j'étais comme beaucoup de monde, je comprenais pas du tout ce que c'était, j'étais étonné, j'étais fasciné aussi, hein, quand même, faut le dire, mais bon, je gardais mes distances, mais ça m'attirait. Et puis le temps a passé comme ça et finalement un jour j'ai appris qu'il y avait un centre de Bhakti Yoga. À l'époque c'était à côté des Beaux-Arts, la place François Sicard. Donc il y avait une petite maison là-bas. Et je suis allé un jour visiter et voilà, j'ai rencontré ces personnes qui pratiquaient non seulement la musique, mais une vie spirituelle derrière cette musique. Je faisais les salons, bah pareil, les mêmes salons, donc à Paris surtout. Et bien en fait c'est des instruments que vous connaissez certainement, hein, qu'on utilise pas simplement pour très peu pour la musique finalement, mais pour le bienfait qu'ils peuvent procurer au niveau de la santé et de la méditation. Et puis j'ai continué simplement avec cette activité des bols et des gongs. Et au début mon activité s'appelait Shabda en sanskrit, en langue ancienne de l'Inde, ça veut dire le son transcendantale, à vrai dire même. Et voilà, c'était une autre découverte intéressante, comment avec les sons on peut soigner, comme le faisaient les Chinois anciens, ils avaient découvert le rapport entre les notes et les organes du corps, etc. Donc ça a enrichi un petit peu plus ma connaissance. L'idée de ce centre ici, c'est de faire un partage, c'est vraiment partager, c'est de créer un lieu dans lequel les gens puissent venir, se sentir bien, se ressourcer physiquement, santé, etc. C'est vraiment un lieu dans lequel on cherche à ce que les gens se sentent bien et qu'ils puissent venir librement se nourrir physiquement, émotionnellement, spirituellement. C'est holistique, c'est complet si vous voulez. L'idée c'est de créer quelque chose d'assez complet. Et puis ici c'est le fait de partager donc cette musique. C'est vraiment le propre du kirtan, il y a la personne qui dirige le chant et puis il y a le groupe qui répond à l'unisson. ça donne cette puissance de chant commun. Et la pratique du kirtan, elle est comme le mantra, c'est un son d'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot mantra, c'est veut dire qui libère le mental. Mana, c'est dire le mental, et trayate, c'est dire qui libère. Donc le mantra, c'est un son qui à l'origine est donné dans ces textes anciens de l'Inde, les Védas, et qui libère le mental de ses préjudices, de ses anxiétés, etc.
Dans le kirtan, la répétition de mantras, des formules religieuses en sanskrit, vise à permettre aux pratiquants d'accéder à un état de libération et d'élévation de la conscience spirituelle. Il s'agit d'une expérience à la fois collective et individuelle, structurée sur la base de formes responsorielles. Cette pratique, Sundar Gopal la transmet aujourd'hui dans le cadre de séances collectives ouvertes à des personnes de différents horizons qui ne sont pas forcément adeptes de la religion hindouiste. C'est une de ces séances enregistrées dans son restaurant, le Gopal, qui est situé à Tournor, que nous avons entendu à la fin de ce portrait. Daniel Saulnier est un spécialiste reconnu du plein chant, une forme de chant pratiquée dans l'Église catholique consistant à la récitation rythmée des textes sacrés en latin. Ancien moine bénédictin, il est arrivé en 1980 à l'abbaye de Solesmes, et a mené des recherches qui l'ont conduit à devenir professeur de chant à l'Institut Pontifical de Musique Sacrée à Rome. Après une thèse en musicologie médiévale à l'École pratique des hautes études à Paris, il est devenu ingénieur de recherche au CNRS. À travers son parcours et ses recherches, nous découvrons encore aujourd'hui un pan méconnu de l'histoire des liturgies catholiques en Occident.
J'ai pas mal voyagé dès l'enfance, parce que j'ai passé 2 ans dans le Pacifique Sud, et je suis rentré en métropole donc à l'âge de 9-10 ans. C'est à ce moment-là que j'ai eu envie de faire de la musique. Assez vite, vers 11 ans, j'ai été inscrit dans une école de musique. J'ai choisi la flûte traversière. J'ai suivi une formation musicale de ville de province jusqu'à la classe du supérieur. J'ai arrêté à ce moment-là parce que j'étais pris par les études. J'ai fait des études scientifiques. J'ai fait une école d'ingénieur. Mais mon intention était autre. J'avais fait ça pour avoir un métier, pour avoir une indépendance. Mais à l'âge de 26 ans, je suis rentré dans un monastère qui s'appelle Solesmes. Et même, il se trouve que Solesmes est un lieu mondialement connu pour une pratique et une certaine compétence dans le domaine du chant grégorien. Je suis devenu, modestement, mais c'est des faits, un spécialiste, disons, au niveau mondial de cette musique-là. Au point qu'en 2005, j'ai passé une thèse de doctorat concernant le plein chant ancien, médiéval, et j'ai été appelé pour être professeur de chant grégorien à l'Institut Pontifical de Musique Sacrée à Rome, où j'avais une chaire consacrée au chant grégorien, la seule au monde. J'y ai travaillé 5 ans, et donc en 2010, je me suis trouvé à chercher une autre orientation. Et en fin 2010, j'ai quitté Rome, et en début 2011, j'ai été invité par le directeur du Centre de la Renaissance. Si je voulais travailler, il me donnait un emploi. On m'a donné des tâches d'enseignement, de latin, de paléographie, j'ai monté des ateliers de plein chant. Et puis, le directeur d'ici est devenu président de l'université, Philippe Vendrix. Il est encore le professeur de musicologie de l'université de Liège, et donc il a eu besoin d'un suppléant. Donc pendant 5 ans, je l'ai suppléé à plein temps comme maître de conférence à Liège. Un moine bénédictin passe 5 à 6 heures par jour à chanter. Donc il y a des réunions tous les jours et aussi des prières au long du jour, les offices du jour, du matin, du soir, de la nuit. Ensuite, il y fait, d'abord il a une vie normale, il dort et il mange, bien sûr. Et il a aussi un peu de détente, mais sinon il y a aussi beaucoup de travail. soit du travail manuel, soit du travail intellectuel. Alors, dans mon cas, j'étais apte à faire des études, donc j'ai fait d'abord 2 ans, disons, de préparation. On s'habitue à la vie, en quelque sorte, et on voit si on est fait pour ça. Ensuite, j'ai fait des études de philosophie, 2 ans, puis 5 ans de théologie. Après, ça, c'est la formation du moine et du prêtre, puisque je suis moine et prêtre. Et après quoi, le supérieur m'a donné comme principal travail d'étudier le chant grégorien. Dans les manuscrits médiévaux, à lire des traités, à rencontrer des maîtres aussi. Et puis petit à petit, à enseigner.
Et quand est-ce que c'est venu cette vocation pour le plein chant ?
Alors, donc, il y a 2 choses. D'abord, en entrant dans un monastère comme Solesmes, j'étais confronté à la chose. Un moine qui rentre, ou une moniale qui rentre dans un monastère, comme il passe, on lui dit quand même, vous allez passer 5 ou 6 heures par jour à chanter, est-ce que vous allez tenir le coup, quoi ? Donc, en fait, pour moi, la question ne se posait pas, parce que j'aimais la musique, et j'avais découvert un peu le chant grégorien à travers des enregistrements qu'on m'avait offerts quelques années auparavant, et ça m'attirait. Et je vous donnerai, si vous me demandez, le premier morceau de chant grégorien qui m'a fait flasher, quoi, à 20 ans à peu près.
Qu'est-ce que ça vous a procuré quand vous avez écouté cette musique au départ ?
Ben, ça a été une émotion extrêmement forte. Voilà, c'est un coup de foudre. Voilà. C'est comme quand on est amoureux. Et ça peut arriver à toute période de la vie. Ouais. Vous savez, le deuxième événement marquant, c'est quand je suis entré à Solesmes. Donc, je suis rentré à Solesmes pour la fête de Saint-Benoît. Dans le chant, il y a ces mots-là. « Diem festum celebrantes ». Et donc, c'était ma première fois, je suivais et j'entendis les moines avec un parfait ensemble chanter « Diem festum celebrantes ». Voilà, ce jour-là, j'ai dit « En plus, il ne faut pas croire ce qui est dans la partition ».
Comment décririez-vous l'influence de votre famille sur votre pratique ou sur votre parcours d'études ?
Tout petit, j'ai eu cette intuition que je voulais être dans ce monde religieux-là. J'ai toujours gardé cette intention-là, mais la musique est venue, et je me rappelle très bien, au début où j'étais à l'école de musique, à Brest, il y avait un étudiant très, très doué, qui finissait, lui. Et quand j'ai appris qu'il allait au conservatoire de Paris, le soir, au dîner, je disais à mes parents, bah, « Moi, je vais faire pareil. Hein. » Et là, ils m'ont dit, ben oui, tu vas faire tes études, on en parlera après.
J'ai pu constater que votre CV est extrêmement riche. Et du coup, votre foi revêt-elle une importance particulière au cœur de votre pratique? Ou est-ce plutôt dans une optique de recherche que la théologie vous aide?
Dans mon parcours, la dimension religieuse, spirituelle et la dimension musicale sont profondément imbriquées. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la musique, c'est vital. En plus, quand c'est le chant. C'est toute la personne qui est engagée dans le chant, c'est-à-dire le corps, mais c'est aussi toute l'affectivité, parce que chanter ou écouter, ça nous remue quelque part. Et aussi dans le fond, puisque ces textes, ils sont inspirés par la Bible, ils sont inspirés par des priants. Et pour moi, ça va ensemble. Donc la recherche théologique et la recherche musicale, ces pôles se rejoignent.
Un portrait réalisé par Kélan Marchand, Louis-Maxime Salondi, Anatole Barillet et Mathéo Lhomme. Voici à présent un court extrait de chant grégorien, cette fois-ci interprété par Tari Akbari, chanteur d'origine iranienne installé à Tours. Un court extrait s'intitulant Lux Lucis avec l'ensemble Beatus. Tari Akbari est un de ces musiciens qui interrogent les frontières et passerelles entre musique sacrée et profane, d'Orient et d'Occident. Né en Iran, il apprend le chant avec des maîtres du radif, la tradition classique persane. Venu en France par passion de la langue et de la littérature française, il développe des collaborations avec des artistes dans le champ des musiques du monde, mais aussi des musiques anciennes européennes.
Je suis Tari Akbari, donc je suis d'origine iranienne. Dans les années 80, je suis venu en France pour apprendre le français. Parce que quand j'étais à l'école, je lisais Balzac, Victor Hugo, etc. Et je voulais apprendre le français et ensuite retourner en Iran. Suite aux événements politico-religieux en Iran, c'est-à-dire la guerre entre l'Iran et l'Irak, à l'époque il y avait vraiment la guerre, je n'ai pas pu retourner en Iran, donc j'ai décidé de rester en France. Donc j'ai construit en quelque sorte ma vie en Touraine, à Tours. Et je pense que je suis tourangeau d'adoption. À chaque fois quand je passais devant la faculté de la musicologie ou le conservatoire, j'entendais la musique, j'avais vraiment envie de faire la musique. Par contre, je ne pouvais pas rentrer d'apprendre le solfège. Mmh. Donc j'ai développé ma voix et j'ai continué à chanter comme ça au départ. Et la musique me permettait vraiment de me retrouver. J'avais toujours cette passion de la musique, mais je ne faisais pas en tant que professionnel, parce que ma profession était autre chose. La façon dont j'ai travaillé, c'était d'aller chez des maîtres. Quand j'avais, par exemple, votre âge, je ne faisais pas le solfège. On ne nous apprenait pas le solfège. Par contre, j'allais voir un maître. Donc, ce maître m'apprenait à chanter. Et il me disait, voilà, il faut respirer à tel endroit, à tel endroit. D'abord, j'apprenais à bien prononcer et d'apprendre par cœur les poésies, les poèmes de différents poètes persans et même étrangers. Ensuite, lorsque j'apprenais à bien prononcer, il m'apprenait également à chanter. Comment respirer, comment être quand je suis, par exemple, devant des gens. Mais aussi, il y avait une autre chose que j'apprenais avec le maître, c'était d'être quelqu'un juste, droit, poli.
Donc on a commencé à renseigner sur vous avant de venir vous interviewer. On avait vu que pour vous, la musique, c'était aussi une façon de créer une relation entre l'Orient et l'Occident.
C'est exact.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu
plus? Bien sûr, avec plaisir. Alors, j'ai rencontré Denis Rezendar, qui est le directeur artistique. Et là, j'entendais, quand j'écoutais leur musique, notamment par exemple les laudes italiennes, il me semblait que cette musique me parlait, me disait quelque chose. Je voyais que ça correspondait parfaitement à ce que moi je chantais dans les modes musicaux de la musique persane. Et j'ai essayé, peu à peu, cette idée m'est venue de créer des ponts, de créer des relations entre la musique médiévale européenne qui était pratiquée au XVe siècle, au XVIe siècle, etc., et la musique modale persane d'aujourd'hui. J'ai appris le cours de chant, le développement de la voix, la technique vocale européenne avec les artistes de l'opéra de Tours. J'ai beaucoup travaillé sur le développement de la voix, de la respiration, la cage thoracique. Je me suis dit, pourquoi maintenant ne pas travailler réellement sur la musique occidentale et voir est-ce qu'il y a des éléments communs entre les deux musiques.
Au niveau des émotions et les deux textes,
Oui, ça c'est très important pour moi. Les deux textes, il faut que ça crée en moi cette émotion, cette vibration. Sinon, je ne pourrais pas le faire. La poésie en persan, lorsqu'on le chante, il faut vraiment que ça soit très audible. Mm. Contrairement, au chant lyrique, un opéra.
Vous aviez collaboré avec des derviches tourneurs?
Oui.
Et est-ce que, justement, vous parliez de spiritualité tout à l'heure, est-ce que vous vous retrouvez un peu dans leur spiritualité?
On peut créer des rapports avec un être, entre guillemets, transcendant, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de nous. C'est-à-dire qu'un derviche tourneur se considère comme un trait d'union lorsqu'elle danse, comme un trait d'union entre la terre et le ciel. Et en dansant, on arrive à un moment donné à atteindre certains degrés de spiritualité, et on se sent très très proche de quelque chose de pur, de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous-mêmes. On peut l'appeler ce qu'on veut, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Jésus, on peut l'appeler tout ce qu'on veut. C'est de rencontrer ce sentiment. Donc, avec les derviches, moi j'ai pu avoir cette expérience. Je suis hypnotisé par un texte. On ne peut pas décrire quelque chose qui est de l'ordre de ressenti. Je suis souvent accompagné par le tar et la percussion. J'ai également d'autres instruments qui sont là. Ceci, c'est un setar. Moi, je ne fais que chanter. Lorsque j'ai un concert, je suis dans une dimension d'improvisation. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et puis, hop, je pars.
Un portrait réalisé par Pierre Quignot, Maïl Guichard et Roman Berneron. Tareh Akbari explore ainsi les frontières des traditions et nous montre combien le chant est pour lui le vecteur d'une quête de spiritualité qui dépasse les frontières entre différentes religions et cultures, pour atteindre une forme d'universalité. C'est aussi la démarche de notre quatrième et dernière figure, une femme cette fois-ci, Güleh Hacer Toruk, qui habite aujourd'hui en région parisienne, mais vient souvent à Tours pour des concerts et projets pédagogiques. Güleh Hacer Toruk est née à Istanbul. Elle a grandi à Chartres, dans une famille turque. Elle a étudié les lettres et l'enseignement du français langue étrangère à Tours. C'est aussi dans cette ville qu'elle s'est découvert progressivement une vocation de chanteuse en participant à des projets de la troupe de théâtre Demo Dokos, puis en collaborant avec des artistes épris des musiques de Turquie et d'Orient tels que Tareh Akbari, Thierry Robin. Or, son histoire nous rappelle combien cette vocation d'artiste n'allait pas de soi pour sa famille et la communauté dont elle est issue. Ses chants, Güleh Hacer Toruk, les puise dans divers répertoires de Turquie. Les chants populaires des bardes anatoliens, les chants kurdes et arméniens, les chants des Avelevi. Célébrant ainsi la pluralité des cultures et des langues de Turquie, elle souligne aussi ce qu'il y a de commun dans ses chants évoquant divers aspects de l'existence humaine. Des lamentations, des berceuses, des chants célébrant la nature ou rythmant la danse et le travail. Pour elle, il est essentiel de réinterpréter ces chants traditionnels qu'elle dit « faits avec le cœur », mais aussi de les transmettre, ce qu'elle fait dans de nombreux projets éducatifs avec les orchestres Demo, l'école de l'oralité, ou en venant animer des ateliers de chant à Tours ou ailleurs. Vous écoutez Drama Köphose avec son ensemble Teli Turnala. Thank you. Vous avez écouté les témoignages de quatre figures collectées et montées par les étudiants de licence de musicologie de Tours. Ces montages, vous pourrez les retrouver sur notre podcast et bientôt sur le site internet du projet D'ici et d'ailleurs. Cette émission a été préparée par Pauline Bernard et Talia Bachir-Loupuit. Nos remerciements à Stanislas Gaucher pour la partie montage et aux étudiants ayant réalisé ces portraits. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le dernier volet de notre série qui sera consacré au thème de l'appel de l'Orient. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous recommander de nouvelles figures de musiciens, musiciennes à interroger. Merci.